Virginie Langeroc.
Il ne faut surtout pas baisser la garde, déclare Raphaël Majora, le géologue du canton du Valais, même si pour le moment, le scénario du pire est écarté pour la vallée du Lötschental. Ce matin, les autorités envisageaient encore une rupture brutale du barrage de Grava qui a formé un lac artificiel à Blatten. Ce scénario est devenu moins probable au fil de la journée car l'eau accumulée par la chute du glacier commence à s'évacuer, à se frayer un chemin vers l'aval. Les autorités ont donc renoncé pour le moment à évacuer les habitants de la vallée. Mais elle reste en alerte et les communes situées en dessous de l'éboulement, y compris dans la vallée du Rhône, se préparent à une éventuelle future évacuation. Des digues ont aussi été installées. Pour l'heure, cet événement exceptionnel n'a fait qu'un disparu, un homme de 64 ans qui était de la région. Les recherches ont été suspendues hier. La reconnaissance d'un État palestinien sous condition n'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. C'est ce qu'affirme ce matin le président français Emmanuel Macron depuis Singapour, dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est. Il appelle également à durcir la position collective face à les situations humanitaires désastreuses dans l'enclave palestinienne. Gaza est l'endroit le plus affamé au monde, propos tenu ce matin par un porte-parole du Bureau des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Selon ce responsable, 100% de la population gazaouie est menacée de famine, a-t-il déclaré lors du point presse régulier des Nations Unies à Genève ce matin. Le tribunal administratif fédéral lève les sanctions prononcées par le secrétariat d'État aux migrations contre la compagnie suisse. Le secrétariat d'État aux migrations avait infligé des amendes importantes à la compagnie aérienne pour avoir enfreint son obligation de diligence en matière de contrôle à l'embarquement. Finalement, le tribunal administratif fédéral annule la décision du SEM. Les juges constatent en substance qu'aucune lacune fondamentale ne peut être reprochée à Suisse. L'enseigne de prêt-à-porter française Naf est placée en redressement judiciaire. 600 emplois sont menacés selon des sources proches du dossier. Il s'agit de la troisième procédure de la sorte pour l'entreprise française. La marque avait été reprise l'an passé par un groupe turc. Malgré des engagements de relance et de maintien d'une partie des emplois, l'enseigne n'aura pas réussi à redresser durablement sa situation financière. La ville de Soleure, dans le canton du même nom, accueille pour tout le week-end la 47e édition des Journées littéraires de Soleure. Plus de 140 manifestations y auront lieu jusqu'à dimanche. Les Journées littéraires de Soleure sont une vitrine de la littérature suisse et internationale de l'année passée. 74 auteurs-autrices y présentent leurs œuvres, dont une vingtaine d'écrivains romans ou francophones. Parmi les invités venus de Suisse romande figurent Catherine Lovet, Roland Buty, Germano Zulo ou encore Gabriella Zalapi, dont le dernier roman, Ilaria ou la conquête de la désobéissance, a déjà reçu de nombreux prix. Le temps aujourd'hui, du soleil avec de timides nuages l'après-midi en montagne. En plaine, il fera un maximum de 26 degrés. Le week-end s'annonce également très estival avec des températures qui pourront aller jusqu'à 28 voire 30 degrés. Des nuages vont malgré tout se former ce week-end l'après-midi en montagne, demain et dimanche. Il pourrait y avoir des averses ou des orages isolés sur les reliefs, surtout le long du Jura et des Préalpes qui pourront déborder en plaine durant la nuit. Le début de la semaine prochaine sera perturbé avec des pluies fréquentes qui feront en tout cas légèrement baisser les températures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 30 août au 14 septembre, le Valais devient le terrain de jeu des meilleurs VTTistes de la planète. Les championnats du monde Mountain Bike UCI 2025 prennent place dans 8 destinations valaisannes. Adrénaline, vitesse, parcours spectaculaire et ambiance survoltée. Venez vivre l'euphorie au cœur de l'action. Plus d'informations sur valais2025.ch. Retrouvez l'événement en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
Yova, il a sa personnalité et on voulait travailler vraiment avec sa personnalité et la force de proposition de Yova, le chien, et pas de un chien. Il est très professionnel, il est à l'heure, il connaît très bien ses entrées, ses sorties, et parfois il anticipe même la scène suivante, il sait exactement ce qui doit se passer après.
C'est un vrai acteur.
Oui, c'est un vrai acteur et chanteur aussi.
Vacarme.
Tel maître, tel chien.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Belle et Sébastien, Beethoven, Lassie, ou plus récemment Dog ou Le procès du chien, il n'est pas rare que des chiens tiennent le haut de l'affiche dans des films ou dans des pièces de théâtre. Certains adorent ça et développent même un vrai talent de comédienne ou de comédien. L'artiste Judith Zaghouri vit dans une ferme à Gimel, une ferme où cohabitent les animaux et les êtres humains. Elle les fait jouer dans des spectacles où ils ont leur place en tant qu'individus uniques. On est donc très loin ici du dressage autoritaire qui fait fi du bien-être animal. Judith Zaghouri dirige un laboratoire de recherche théâtrale sur le rapport que l'être humain entretient avec l'animal, où elle utilise ce qu'elle appelle un langage incarné, à l'écoute des propositions de l'animal. Fin 2023, nous avions pu l'accompagner à Paris, où elle coachait Yova, un chien qui prend très au sérieux son rôle de comédien. Il tenait un rôle important dans Aouri, une pièce écrite et mise en scène par Yuval Rosman au Théâtre du Rond-Point.
Je dépense un petit peu parce qu'hier, c'était un peu la foire à la saucisse au spectacle, mon grand. Je profite de l'herbe un peu, là, ça n'a pas beaucoup dans cette ville.
C'était un peu la foire hier soir.
C'est-à-dire que c'est un chien qui a beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on est obligé de se balader pas mal. Parce que dans les scènes qu'il joue dans le spectacle, il y a pas mal de moments où il est assez haut en excitation. Il adore faire ce qu'il a à faire. Mais si il n'a pas pu sortir tout et évacuer pas mal d'énergie pendant les balades de la journée, ça se ressent forcément au plateau. Et hier soir, c'est vrai qu'à un moment donné, il était un peu haut.
C'est-à-dire, ça s'est matérialisé comment ?
On sent qu'il y a une espèce d'énorme envie, excitation, et puis sa présence prend tout à coup énormément de place sur le plateau. On sent un être qui vibre, mais tellement intensément que souvent, il a tendance à grignoter un petit peu l'espace et à prendre beaucoup l'attention sur lui.
Une star est née, reportage Quentin Bolen, réalisation Jean-Daniel Mottet.
Yova, vous me le décrivez en quelques mots ?
Yova, alors, oh là là. C'est un border collie, donc c'est un chien de race berger, qui sont des chiens de travail. Et lui, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas l'aspect vraiment d'un border, mais plus d'un berger australien. Je dis toujours qu'il a enfilé un pyjama de berger australien parce qu'il a les yeux verrons et puis il a une robe bleu merle. Voilà.
Et là, on est à Paris, on est au Bois de Boulogne. Pourquoi vous êtes ici cette semaine ?
Parce que Yova joue au Théâtre du Rond-Point dans une pièce qui s'appelle Aouvi, mise en scène par Yuval Rosman. Donc, c'est un petit Suisse qui se retrouve à Paris, au bas des Champs-Élysées.
Et lui, alors, la vie parisienne, la vie de star, ça se passe comment pour lui ?
Alors, dès qu'on est dans le théâtre, avec les comédiens, avec Yuval, avec les gens qu'il connaît, dans ses loges, dans la scénographie qu'il connaît, il est très, très, très à l'aise et très content. Maintenant, la ville, les trottoirs, pour lui, c'est toute une histoire de faire caca.
C'est vrai.
Donc, il faut trouver des petits coins tranquilles où il peut se cacher, ce qui n'est pas évident.
Vous me disiez qu'il aimait bien quand même aller se poser dans les cafés parisiens.
Oui, alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai que marcher dans la rue, il y a beaucoup de bruit dans les cafés aussi, mais il s'y sent bien parce que, je sais pas, tout le monde lui fait des compliments, lui apporte des bols d'eau, tout le monde le caresse. Enfin, il aime bien avoir un petit peu d'attention sur lui.
Et vous, Judith Zaghouri, vous vous présentez en quelques mots ?
Ah moi j'ai plusieurs casquettes, mais celle que j'enfile en ce moment, c'est un peu... La personne qui va rentrer dans la tête de Yova, dans le spectacle, essayer de voir comment il vit les choses, qu'il ressent de soir en soir, mais aussi dans celle des comédiens, et on voir quand ça match entre eux, quand la relation se passe bien, quand ils arrivent bien à se comprendre. Donc là, en ce moment, on peut dire ça, c'est que j'accompagne Yova et les comédiens dans cette expérience qui est de vivre sur un plateau pendant trois quarts d'heure, une heure, chien, comédien, une histoire. Là, ça va faire peut-être la 25e, 26e fois que Yova traverse cette pièce. On sent quand même que l'animal a conscience en fait de ce qui se passe, il sait qu'il y a un public, il sait qu'après il va avoir des caresses, il connaît en fait le début, la fin de la mise en scène, les rendez-vous importants pour lui et tout ça. Alors, quand moi, ou quand on estime ou on a l'impression qu'il est bien, c'est quand il garde en fait sa part quand même animale et qu'on voit qu'il reste intéressé et présent en fait comme un comédien. C'est un peu pareil, il faut qu'il soit connecté avec tout ce qui se passe autour de lui et comme s'il vivait un peu les choses pour la première fois. Donc c'est ce qu'on essaye de continuer à garder. Pour lui, c'est qu'il ait vraiment un intérêt à vivre ce qu'il est en train de vivre et pas d'enchaîner des choses comme ça de façon un peu répétitive.
Et ça, c'est un vrai talent qu'il a pour ça quand même, vous me disiez.
J'ai l'impression, oui, parce que de soir en soir, il nous surprend et il nous propose régulièrement des nouvelles choses et puis une relecture parfois des scènes et des situations. C'est assez facile d'amener un animal en public en lui faisant faire plein de trucs sur une minute, deux minutes, trois minutes, en faisant des tours, des choses comme ça. Mais quand on est sur un type de travail là, comme dans A ou J, où l'animal est présent longtemps sur scène, on ne peut pas mentir.
Judith, vous, justement, tous vos spectacles, vous les créez avec les animaux. Qu'est-ce que ça implique concrètement, vous, en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, de travailler avec des animaux ?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on a plein de choses à redécouvrir dans le rapport à l'animal, dans notre société. Donc j'ai l'impression que c'est une façon aussi de sensibiliser et d'ouvrir en fait le regard du spectateur, mais pas que, aussi des équipes artistiques, des théâtres qui vont accueillir ces animaux, en repensant la place de l'animal dans la société et de se dire, peut-être qu'une chèvre, il peut faire autre chose que du lait ou fabriquer des cabris, qu'on peut avoir une vraie amitié avec. Pareil avec une poule, avec un coq ou avec un cheval. Un cheval, ça peut être juste un animal qui est présent à côté de nous sans qu'on monte nécessairement dessus ou qu'on lui fasse faire des tours exceptionnels ou des choses comme ça. Et puis, c'est un vrai challenge d'être sur scène avec un animal. Parce que pour que ce soit intéressant, il ne faut pas l'avoir totalement sous contrôle, bien évidemment, mais de aussi vivre à travers lui, pouvoir rebondir sur ses propositions, anticiper sur certaines choses, qu'il y ait des vrais échanges.
Directement derrière le théâtre.
Voilà. Hein, Yova, ça va, c'est pas trop dur la vie. Alors là, il reconnaît, il regarde toujours par la fenêtre. Et il se sent très très à l'aise et il est content de retrouver ses marques. Donc on est derrière le théâtre, puis on va rentrer par le hall principal et puis rejoindre les coulisses. Puis il suffit de le suivre et puis il va nous amener dans sa loge.
Ah, parce qu'il a une loge.
Ah oui. Ah bah oui. Et là, ça sent la croquette.
Ah ouais, effectivement.
J'espère que ça ne te dérange pas.
Vous me la décrivez, cette loge?
Bon. Là, en hauteur, il y a son ballon tout pourri qui sert un peu de défouloir et on joue un peu dans les couloirs par moment, sa gamelle d'eau.
Et il a soif, là.
Ouais, on est de retour de balade. Il a son petit tapis. Là, il y a un miroir. Comme une loge, hein, pour se maquiller. Là, il y a ce qu'il adore. Il y a son poulet. Ça, c'est ce qu'il déteste le plus, c'est la brosse. Parce que c'est un petit chien de ferme qui n'avait jamais vu une brosse ni qui n'a jamais été lavé avant de se retrouver ici. Donc là, le but, quand on commence à être sur le plateau, c'est de travailler un peu sur le calme de Yova. Et puis sur des petits rappels, comme ça. Ça, c'est des petits « reviens vers nous ». Là, je fais un petit signe avec la main pour lui demander de garder la distance. Et puis là, un autre avec la main pour qu'il se couche. Et là, je fais un petit son qui s'appelle un clic, qui est après suivi d'une récompense pour dire « ok, ça, c'est top ».
La récompense, c'est quoi ?
La récompense, c'est un moyen de communiquer avec le chien. Il faut faire attention de ne pas réduire tout ce que fait le chien à l'envie simplement de cette récompense. Et elle est aléatoire, elle vient parfois à certains moments. C'est à la fois un encouragement et à la fois quelque chose qui sert précisément à dire « Ok, ça c'est super, merci ». Puis ça consolide en fait l'envie de continuer à écouter, à comprendre, à chercher. Mais c'est un outil de communication et d'apprentissage.
Chuchoter, c'est pour garder le calme.
Oui, c'est parce que on est quand même dans un espace un peu sacré et de travail, et de concentration. Puis on voit, regardez, Yova, il n'est pas comme quand on était en balade. Et c'est aussi par respect pour lui, là, qui est déjà mentalement en train de...
C'est vrai qu'il est... Là, on dirait qu'il est centré dans son rôle.
Oui.
Qu'il est couché, là, par terre. Il nous regarde du coin de l'œil.
Il sait qu'il est posé, qu'il regarde ce qui se passe. Mais c'est comme si... Quand on le mettait là, on disait là il est en train de travailler. C'est ce qu'on attend aussi un petit peu comme texture de présence, comme attitude et tout ça. Donc c'est pour ça que plutôt que de travailler des choses qui sont assez enlevées et stimulantes pour le chien, pendant les répétitions on fait tout plutôt sur tout ce qui est calme. Parce que c'est plus dur pour lui en fait de rester calme, d'écouter, d'être un petit peu, voilà, de laisser les choses exister autour de lui. Lui ce qu'il voudrait c'est sans arrêt interagir, jouer, courir, machin, proposer des trucs. Donc du coup, là, on passe beaucoup de temps à lui dire « Ok, c'est génial quand t'es comme ça, merci. » Puis c'est là qu'on va beaucoup caresser, aussi beaucoup récompenser précisément ces choses-là. Et là, si on peut décrire ce qui est en train de se passer là sur le plateau, on voit Gaël qui joue Virgile et puis qui est allongé dans cet espace blanc avec Yova tout décontracté à côté. Et que c'est un petit moment de plénitude et de prise de contact super calme entre les deux. Et on n'est pas sur un langage verbal, on est sur un langage incarné. Du coup, je sais pas toi,
ouais.
Steph, comment t'as vécu la chanson hier, si c'était ok ou pas pour toi?
Ouais, il est parti très tôt du pédalo, là.
Mm-hmm. Il est parti très tôt. C'est dans cet angle-là. Puis lui, on sait que quand il regarde vers l'arrière du pédalo, c'est que déjà mentalement, il est prêt au début de la chanson à partir. Donc il y a deux options. Soit tu lui suggères de rester, soit on peut essayer ce qu'on a essayé à la répétition. C'est en fait que toi, physiquement, tu te positionnes là à rendre plus difficile en fait sa sortie du pédalo. Mais je sais pas, comme on l'a jamais vraiment testé, on sait pas à quel point il va résister, enfin il va être ok avec ça ou pas.
Yoba.
On se met sur le côté, dernier coup d'œil sur la cage, on part, on se dit au revoir, on enlève nos masques, on s'embrasse. Tu me tiens la tête et tu me dis...
Ce n'est pas parce que je pars que je m'en vais.
Poétique.
Donc là, ce qui se passe, c'est la scène qui précède le moment d'excitation où Yova a envie de rejoindre Gaël, qui tient dans la main son jouet préféré, avec en plus à l'intérieur de la nourriture. Puis Stéphanie lui chante une chanson d'amour et le chien reste comme s'il était dans sa cage, dans une cage, dans un aéroport avant de prendre un avion. Et il est juste là, couché sur notre joli pédalo rose et jaune, complètement libre d'en sortir à tout moment. Donc il n'est pas dans une cage, c'est une cage fictive. Et là, Stéphanie essaye de le garder le plus tranquille possible pour cette scène, chanter sa chanson. Et puis Gaël est dans les gradins avec le jouet hyper attractif. Et puis Yova en même temps, voilà, doit rester connecté à Stéphanie. Donc c'est pas évident.
Ouais. Donc Yova doit résister à la tentation.
Voilà. Alors il y a une porte qui a claqué. On a vu Yova qui monte un peu en intensité. On a envie de rejoindre Gaël. Et Stéphanie a anticipé. Et elle a changé de position pour se rapprocher d'Yova, le caresser et garder son attention. Voilà, et là Yova se repose à nouveau tout tranquillement sur le pédalo et Stéphanie l'encourage à rester dans cette position, lui fait comprendre que c'est ce qui est attendu à ce moment. Là on voit Yova qui remue la queue, qui a fait une bise à Stéphanie. Sur ce moment-là de la chanson, toujours à ce moment-là, il est hyper content. On le voit qu'il sent qu'elle s'adresse vraiment à lui. Et il se rapproche toujours. Ok, Mais c'était super, Steph, et c'était super le moment où t'es allé aussi derrière, au moment où il a commencé à tourner la tête. Ok.
Stéphania Flavio, vous êtes une des actrices, hein, des trois acteurs qui jouent avec Yova.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça fait alors de partager l'affiche avec un chien?
C'est rigolo.
Il vous écoute, hein, je crois, attention.
Oui, c'est ça, il est curieux de savoir ce qu'on dit de lui. Oui, ce qui est super, c'est que du coup, il y a quelque chose, je sais pas, quand on entre au plateau, en tant qu'acteur, c'est difficile de trouver de la nouveauté dans le même, enfin, dans la répétition du même, etc. Et ce qui est super, c'est qu'avec Yova, on sait que de toute manière, va y avoir des surprises tous les soirs, même s'ils viennent pas forcément de nos partenaires de jeu ou de nous-mêmes, qu'en tout cas, Yova va nous en offrir. Et ça, c'est quelque chose d'assez agréable, justement, pour être dans les bonnes dispositions et le bon état d'esprit avant d'entrer sur scène. C'est d'avoir de la curiosité pour le moment qui va arriver.
Il y a Roxane qui nous a rejoint. Du coup, bonjour Roxane. Bonjour. Vous êtes aussi une des actrices. Elle me disait que c'était justement que ça permettait de se renouveler. C'est un peu de jamais trouver du renouveau.
Oui,
c'était ça.
Il n'y a pas de confort. Il n'y a rien qui s'installe. Quoi. C'est sans cesse réinventé et remis au présent.
Oui, il nous met en danger. Hein.
Ouais, dans quel sens?
Parce que dans le jargon théâtral, on aime bien l'idée de jouer, c'est se mettre en danger, jouer avec les limites, c'est-à-dire sauter parfois dans une proposition dont on ne connaît pas la chute. Et Yova, il a vraiment cette fonction-là, où il nous met en danger, c'est-à-dire qu'effectivement, il a des propositions qui sont nouvelles et il faut qu'on soit capable d'y réagir.
Vous le décrirez comment, Yova? C'est quoi comme... C'est quoi comme genre d'acteur, alors si on peut utiliser ce terme?
Il est très professionnel déjà, c'est-à-dire que...
Il fait la bise en arrivant.
C'est vrai? Ah ouais?
C'est vrai, il fait tout le monde.
Mais au début, on était épatés parce que, entre les répétitions, nous-mêmes, parfois acteurs, on avait oublié « Ah, qu'est-ce que je dois faire déjà après avoir fait cette action? Je dois aller près du pédalo, je dois aller là. » C'était lui presque qui nous leadait dans le parcours dans l'espace scénique.
Elle me disait, Judith, qui s'occupe de Yova, qu'avec les animaux en général, et avec Yova en particulier, on pouvait pas lui mentir, c'est-à-dire qu'il ressentait toutes les énergies.
C'est des choses d'intentionnalité, c'est-à-dire que si on lui indique « va coucher par exemple avec une main », mais que nous-mêmes on n'est pas sûr que c'est la bonne décision à prendre, qu'on est hésitant dans notre geste, lui il va percevoir l'hésitation, il va percevoir l'intentionnalité plutôt que le geste. Du coup, oui, ça c'est intéressant, ça veut dire que nous on doit être toujours dans des intentionnalités fortes.
Regarde, je lui mets cette lumière là.
Ah, c'est bon.
Yuval Rosman, on se promène avec les chiens, là.
Les chiens. Le père et le fils Yova, qui est le chien de Judith, et l'acteur dans Aouvi, et Elio, qui est mon chien, et le fils de Yova. Elio! Ça, c'est non.
Est-ce que, selon vous, Yova a des meilleurs talents d'acteur que Elio? Est-ce que ça se ressent?
Ils sont très, très différents. Je pense que dans Elio... Yova, il est un peu plus sérieux. Comme il a grandi avec des chèvres, du mouton, des chevaux, on sent que c'est un chien responsable. Elio, il est un peu plus foufou, je m'amuse, je fais tout le temps des blagues. C'est un peu le fils, le jeune, qui a envie de te faire des surprises. Et puis, il est plus sauvage, même si dans les deux, il y a quelque chose de sauvage. Mais je pense que ces deux chiens, ils aiment bien faire des blagues et des surprises. L'humour est très présent chez les deux. Tiens, ça il adore, je lui donne un peu de pâte de saumon. Voilà, et il vient. Oui, tiens. Yova, il a sa personnalité et on voulait travailler vraiment avec sa personnalité et la force de proposition de Yova, le chien, et pas de un chien. Donc c'était vraiment dans les répétitions, l'enjeu était... de se détacher aussi de ce que j'avais écrit et de voir ce que lui, il propose, ce qui marche entre les interprètes et lui. Ah, il est très professionnel. Il est à l'heure, il connaît très bien ses entrées, ses sorties. Et parfois, il anticipe même la scène suivante. Il sait exactement ce qui doit se passer après. Donc parfois, ils disent « Ok les gars, vous êtes un peu trop long, il faut un peu accélérer là, ce soir c'est mou ». Donc hop, il met de l'énergie dans le spectacle.
C'est un vrai acteur.
Oui, oui, c'est un vrai acteur et chanteur aussi dans le spectacle. Donc il y a un duo aussi. Il chante avec, avec Stéphanie.
Mon chien. Et à toi. Mon chien. Et à toi. Et moi. Mon chien.
Ok, donc les mots pour aujourd'hui, c'est circulation. Ça veut dire l'écoute, que ça circule, les énergies circulent, c'est un ping-pong. Je donne, je lance, je reçois, je donne à nouveau. Donc c'est que l'énergie circule, la situation circule entre vous quatre. Ok, pour aujourd'hui on est dans les... la base. Un homme tombe follement amoureux d'une femme, une femme tombe follement amoureuse d'un homme. Les peps, le champagne, l'amitié, les blagues, la douceur, les bisounours, le contact, et puis la violence qui s'installe un tout petit peu comme dans des petites fissures dans le mur qu'on ne voit pas tout d'un coup. Elle détruit la maison. Voilà.
N'oubliez pas vos croquettes.
Ils ont les croquettes
Ouais.
Comment on lui fait comprendre qu'il joue dans une pièce de théâtre et qu'il est acteur de cette pièce ?
Je ne sais pas si on lui fait vraiment comprendre avec ces mots-là, mais il sait que c'est un moment particulier de la journée, de la vie même. Il sent qu'il y a un rituel, que les humains sont un petit peu différents, qu'on se prépare, qu'on est silencieux avant, qu'il y a toute une concentration, que tout à coup, le moment où il rentre en scène, eh ben, il va y rester pendant un temps donné. Il sait exactement à quel moment il doit rentrer. Et à quel moment il sort, alors que c'est complètement dingue. Il est, au moment de sa sortie, en train de déguster une chose absolument délicieuse qu'il abandonne pour sortir de lui-même. Tout à coup, il comprenne ce qui se passe, la notion du temps, il connaît les musiques qui sont dans le spectacle et même certaines répliques.
Je me suis amusée
à le filmer avant son entrée en scène. Et puis on voit en fait l'écoute extrême dans laquelle il est. On voit ses yeux qui travaillent, il est couché là. Il est ultra, ultra vigilant. On voit qu'il regarde en direction de... On voit le rideau, on voit la lumière, on voit l'attention qu'il prête à ce qui se passe sur le plateau. Attention. Tac.
C'est le petit couchou, il s'appelle Yova. Il est fatigué. C'est un caniche. Géant. Un gros caniche, il aime les massages. Que dire de plus, on l'a adopté il y a quelques mois avec Virgile. Et depuis, ce petit bébé vit avec Virgile et moi.
Vacarme.
Une star est née, c'était un reportage de Quentin Bollone diffusé une première fois le 12 janvier 2024. Yova se porte bien et prépare un nouveau spectacle à découvrir en automne à Vidi et à la Comédie de Genève. Un animal qui a conscience d'avoir des tâches précises sur une scène, un chien qui prend plaisir à jouer la comédie, est-ce que ça vous étonne ? Y a-t-il un animal qui vous a impressionné lors d'un spectacle ou dans un film ? Dites-le nous au 058 134 134 0.
Vacarme ? Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Il y a de plus en plus de chiens en Suisse. Pourquoi ? Que raconte cet engouement ? Que va-t-on chercher dans ces relations d'intimité particulières avec l'animal? Un lien facile où l'amour n'est pas conditionnel? Une altérité? Ce sont ces questions que nous nous poserons dimanche en compagnie du philosophe Nicolas Tavaglione, auteur de « Soi-même comme un chien » et de la journaliste Mylène Berthaud qui a récemment écrit « Toutoute, la nouvelle vie des chiens dans nos vies » paru chez Fayard. Ce sera donc dimanche matin dans les Échos de Vacarme à 9h sur RTS Première. 13h30, on vous parle du goulag dans Histoire vivante. Très bon après-midi.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Dans cette série d'histoires vivantes, on explore les lieux où la porte se ferme. La prison d'abord, parce que c'est le lieu emblématique de l'enfermement, mais aussi parce que c'est un modèle pour les autres, pour tous ces lieux où la vie s'organise en vase clos. Des camps d'internement administratif au goulag, en passant par les établissements dédiés aux personnes âgées. Ces espaces de vie si particuliers ont des règles, une organisation dans chaque détail du quotidien. On stocke des corps et des esprits et on les modèle pour qu'ils soient conformes aux attentes de la maison. Ou en tout cas, on tente de le faire. La prison pour modèle, épisode 5, archéologie du goulag.
Dimitri Panin, pourquoi avez-vous été condamné à 16 ans de détention puis à l'exil à perpétuité? Vous savez, mon cas est tout à fait banal. J'ai été condamné pour conversation.
L'Union soviétique, c'est le pays où il n'y a pas de crise, où la production se développe depuis des dizaines d'années à un rythme rapide.
J'ai été condamné à 5 ans, une peine d'enfant. Ce n'était pas sérieux. On disait qu'un homme condamné à 5 ans était un vénard.
L'Union soviétique, c'est le pays où le chômage est totalement inexistant.
Plus tard, au camp, je me suis vu infliger 10 ans de plus. C'est un système qui a mis la main sur 20 millions de détenus.
L'Union soviétique, c'est le pays où l'on peut circuler tranquillement sans risquer de se faire tirer dessus par les gangsters ou les policiers.
Nous étions surveillés de toutes parts. Partout, il y avait des mouchards. On était épiés de tous côtés. On se sentait comme un poisson enfermé dans un aquarium.
Le goulag, c'est l'immense système de travail forcé instauré par l'Union soviétique entre les années 1920 et les années 1960. Des dizaines de milliers de sites accueillaient ces détenus hommes et femmes, condamnés pour des délits, des crimes, mais aussi pour leur désaccord avec le régime politique. Ils auraient été 18 millions à faire l'expérience du goulag. Les archives accessibles sont très rares. L'ONG Mémorial, qui en a rassemblé un grand nombre, est interdite en Russie depuis 2021. Samuel Verdant, archéologue à l'Université de Lausanne, a dirigé un chantier de fouilles un peu particulier sur le site d'un camp du goulag le long du chantier de la voie ferrée Salkard-Igarka. Ce projet est entamé en 1949 et stoppé dès 1953, après la mort de Staline. Cette voie, Salkard-Igarka, était également baptisée voie ferrée 501 ou chemin de fer de la mort.
Alors, ce que nous avons exploré, c'est en particulier un camp du goulag, un point microscopique dans l'immensité de la toundra sibérienne, un petit camp, une petite île de cet archipel du goulag. S'il faut situer ça géographiquement, on se situe dans le nord-ouest de la Sibérie, dans la région du Yamal, à l'embouchure du grand fleuve Ob, un des grands fleuves sibériens. On est à peu près à 2000 km de Moscou, donc c'est loin. Et puis, actuellement, c'est un des principaux bassins gaziers de Russie. Mais à l'époque qui nous concerne plus, donc à l'époque du camp, c'était encore une grande zone dévolue à l'élevage du renne, avec une pratique de transhumance des populations locales, les Nenets.
Le chantier de fouilles a été perturbé par l'épidémie de Covid, mais le collectif a pu mener à bien les repérages prévus.
Nous sommes concentrés sur un camp qui appartient à une série d'à peu près 200 camps qui sont alignés le long du chantier de la voie ferrée. Sa particularité, c'est qu'il était particulièrement bien conservé par rapport à d'autres camps de la même voie qui ont complètement disparu. C'est pour ça qu'on est allé à cet endroit-là en particulier.
Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant ?
Alors, on arrive en avion depuis Moscou sur Nadym, la ville la plus proche, qui est une ville d'à peu près 40 000 habitants, essentiellement des gens qui travaillent pour l'extraction du gaz. Et ensuite, une quarantaine de kilomètres sur une route assez défoncée, toute neuve mais déjà défoncée à cause de l'évolution du permafrost. Et on est à la limite entre la taïga, donc les zones forestières, et la toundra. Donc majoritairement, c'est très plat. C'est très très humide, il y a des étangs et des petits cours d'eau partout. La végétation est rase, buissonnante, et puis il y a des bosquets d'arbres bas, par-ci par-là, des bouleaux, des mélèzes. La nature a beaucoup repris ses droits depuis les années 50 où le camp a été abandonné. Donc c'est un petit bosquet, et puis entre les arbres, on a des baraquements en bois, partiellement effondrés, mais souvent reconnaissables, certains visitables encore. Il y a une dizaine de baraques, il y a encore un mirador, une partie de mirador, et puis il reste aussi d'une enceinte au fil de fer barbelé.
Parce que c'est un camp de travail, donc on a à la fois les baraquements où étaient les détenus, les travailleurs de force, et aussi les infrastructures nécessaires à les surveiller. C'est bien ça, Samuel Verdan.
C'est un camp qui accueillait à peu près 300 prisonniers qui étaient employés à la construction de la voie ferrée qui est juste à côté, une centaine de mètres, qui passe à une centaine de mètres du camp. Et bien sûr, ces personnes étaient enfermées quand elles ne travaillaient pas sur la voie. Donc, il y a une enceinte d'à peu près 120 mètres de côté, une porte avec une petite baraque de contrôle par où passaient les prisonniers quand ils allaient travailler, quand ils revenaient le soir. Et puis tout ce qu'il faut pour la vie de base, disons, de ce groupe de personnes qui sont la main-d'œuvre du chantier.
Le voyage jusqu'au site dure une semaine. Le travail sur le site lui-même, deux semaines. Le projet émanait du Collège des Humanités de l'EPFL, avec en tête de faire découvrir aux étudiants ce lieu historique, mais aussi de leur faire rencontrer d'autres étudiants, russes, ceux-là, avec un point de vue tout différent, par leur vécu, par leur histoire familiale, sur le goulag.
C'est un site qui est en cours de disparition. Et il y avait comme ça, on avait le sentiment d'une urgence de la sauvegarde, de fixer une image la plus précise possible de ce lieu avant qu'il disparaisse complètement. Et depuis 2019, il a déjà passablement évolué, il s'est transformé et il a été transformé.
Dans quel sens ?
Alors, je ne suis pas retourné sur le site depuis, donc je ne sais pas comment les baraquements ont continué à s'effondrer. Mais par contre, il y a une petite équipe de bénévoles locaux emmenée par un historien, Vadim Gritsenko, qui a passé sa vie à étudier tous ces camps et puis le chantier de construction de voies ferrées. Et ils ont décidé de restaurer certains bâtiments, simplement pour retarder leur disparition. Donc il y a tout un travail entre guillemets de muséification qui s'est effectué, qui transforme le camp, qui évidemment lui fait perdre une part de son authenticité. Pour un archéologue, c'est toujours difficile d'envisager ce type de démarche, mais qui en même temps contribue à la visibilité de ces lieux et attire des visiteurs, ce qui est aussi le but.
Samuel Verdan, au départ, est spécialiste de l'archéologie religieuse en Grèce ancienne. Très loin du XXe siècle, de l'Union soviétique et de la répression politique. Mais il s'intéresse beaucoup à l'archéologie des temps plus récents, comme l'archéologie des guerres mondiales. Avec sa méthode et sa discipline, il s'applique à voir comment les méthodes exploratoires de l'archéologie peuvent apporter encore autre chose à la compréhension de l'histoire écrite à partir des archives et des témoignages. Comment vivaient les détenus et comment les concepteurs de ces camps ont élaboré ces lieux de contrainte et de travail pour s'approcher au plus près de cette histoire, de ce passé traumatique, de violence organisée par un État.
Je choisis un élément qui est celui qui me touche le plus. C'est qu'on a documenté à l'intérieur d'une cellule de l'isolateur disciplinaire, qui est la prison du camp, donc une prison dans la prison.
Donc c'est une zone de punition.
Voilà, un endroit où les détenus qui avaient commis une infraction étaient enfermés. On a documenté des inscriptions laissées par les détenus sur les murs. Donc, c'est un endroit qui est vraiment particulièrement sombre dans ce camp. Le passage dans l'isolateur disciplinaire, pour un détenu, c'était un moment dangereux. De toute façon, les conditions de vie étaient difficiles, mais elles l'étaient encore plus au moment où ils étaient dans l'isolateur disciplinaire. Un détenu qui était à cet endroit-là, il risquait sa vie. Et donc, ces messages que les prisonniers écrivent à ce moment-là, eh bien, ils viennent du cœur de l'expérience de prisonniers, du cœur de l'expérience carcérale. C'est au fond la littérature de gré zéro du goulag. Et de trouver ces messages, alors c'est bien sûr, c'est des bribes, c'est à peine des phrases, c'est des prénoms, des noms, eh bien, ça nous permet de nous connecter d'une manière particulièrement étroite, je dirais, avec cette histoire et avec les gens qui l'ont vécu. Alors, ils écrivent plutôt leur propre nom pour dire qu'ils ont été là simplement pour marquer le fait de leur passage. Je suppose qu'on peut trouver ça dans toutes les prisons du monde, probablement. Et puis, sinon, il y a des mots qui peut-être expriment leur angoisse. Il y a un mot « étouffement », par exemple, « faim ». Et puis, il y a une phrase qui est frappante, c'est un détenu qui marque son nom et puis qui dit « je suis là parce que j'ai manqué de respect à mes parents ». Bon, évidemment, c'est pas la peine officielle qui lui a été donnée. Par ailleurs, un autre détenu marque l'article précis, le numéro de l'article selon lequel il a été condamné. Mais là, ce prisonnier réfléchit sur son parcours et il se dit peut-être ce qui m'a amené là, c'est que j'ai manqué de respect à mes parents. Et ça rejoint une valeur fondamentale dans la société russe, respect des parents. Et coïncidence assez étonnante, j'ai lu récemment une collecte de témoignages d'anciens détenus du Goulag et qui parlent actuellement et qui se souviennent de ce qu'ils ont vécu. Et une femme dit qu'à un moment donné, un soldat a dit « celle-là, elle est là pour manque de respect pour ses parents ». Puis elle a réfléchi, puis elle s'est dit « oui, peut-être en fait ». Et je trouvais étonnant que ces deux témoignages se rejoignent. En plus, ils sont à peu près contemporains. Et ils sont à peu près dans la même zone géographique.
Et alors, qui étaient ces prisonniers? Vous arrivez à savoir qui étaient ces condamnés qui se trouvaient dans ce camp en particulier?
Pour ce camp, on a très peu d'informations. Donc, de manière générale, on a, grâce aux archives, on a une connaissance de la population carcérale de cette période. Il y a toutes sortes de détenus, il y a des politiques, il y a des détenus de droit commun. Il y a aussi beaucoup de simples citoyens qui ont été condamnés pour un simple vol. Juste après la guerre, en 1947, il y a un décret particulièrement strict qui est mis contre les voleurs. Et donc, pour le vol d'une miche de pain, quelqu'un pouvait prendre 5 ou 10 ans de goulag. Et donc, c'est probablement toute cette population un peu qui se retrouve dans tous les camps, et puis dans ce camp en particulier. Les camps de la construction de la voie ferrée, c'est un peu particulier parce que c'est éloigné, donc c'est compliqué d'amener la main d'œuvre sur place, et il faut quand même sélectionner des gens qui sont capables de travailler, parce que ça n'a pas de sens de mettre les gens au travail puis qui s'épuisent ou qui meurent directement. Donc on pense qu'il y a quand même une sélection, que c'est plutôt des gens en bonne santé. Et puis alors, pour le camp en particulier sur lequel on a travaillé, et ça c'est extraordinaire, on a le témoignage écrit d'un détenu qui a passé un certain temps dans ce camp et qui nous dit que l'endroit a accueilli des spécialistes de la construction des ponts. Pour construire la voie, il faut édifier des ponts et puis il faut des gens qui s'y connaissent. Et donc, il y a un certain nombre d'ingénieurs et de charpentiers qui sont probablement aussi tous des prisonniers, des détenus, mais qui ont été sélectionnés, qui se retrouvent dans ce camp pour élaborer et construire une série de ponts à proximité. Donc, ça faisait une population carcérale un peu spéciale, peut-être un peu privilégiée dans ce camp.
Et qu'est-ce que vous avez compris de la façon dont les concepteurs de ce camp l'ont pensé, l'ont construit, l'ont élaboré ?
Une chose qui était frappante quand on a étudié l'architecture des baraquements, c'est que tout est préfabriqué. Donc c'est un camp en kit. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Sur place, il n'y a pas de matériaux de construction. Les arbres sont trop petits pour être taillés en madrier, donc il faut de toute façon faire venir le matériel, mais ça témoigne aussi d'une conception beaucoup plus large de la normalisation de ces choses-là. Donc tout est prévu à l'avance, tout est normalisé, formaté. Au fond, ça révèle quelque chose de la mentalité des concepteurs des camps, mais de la vision soviétique en général aussi.
Et tous les camps qui se trouvent au bord de cette voie ferrée polaire qui était en construction à l'époque sont exactement les mêmes ?
Non, ça dépend de la fonction des camps. Il y a des camps où il y a une infirmerie, par exemple. Il y a des camps où il y a des bâtiments de fonction, etc. Donc, chaque camp va avoir un plan un peu différent. Mais par contre, chaque camp est composé d'éléments qui sont les mêmes.
Youri Petrovitch Yakimenko a purgé 16 ans en détention, passant de camp en camp. Il est envoyé dans le Grand Nord sur le chantier 501 en 1950. Son témoignage, intitulé « Au gré des prisons et des camps », n'a jamais été publié avant que sa traduction partielle n'apparaisse dans le livre édité par Samuel Verdant. Le chef du secteur des camps a rejoint nos péniches en bateau. Il portait une tenue de marin-pêcheur et se fichait complètement de la pluie. D'abord, il s'est mis à crier sur le convoi, donnant des instructions. Puis, nous avons compris pourquoi il était venu. Il fallait renforcer l'escorte. D'autres gardiens ont accouru et commencé sans se presser à nous décharger par groupe. En chemin, ne pas traîner, ne pas parler. Un pas à gauche ou à droite sera considéré comme une tentative d'évasion et en cas de désobéissance, les gardiens utiliseront leur arme sans avertissement. Est-ce clair ? En avant-marche ! Cette masse, composée de 1000 prisonniers, la tête baissée, le visage morne, se déplaçait lentement. La peur de ce qui nous attendait s'est emparée de nous, comme si nous nous dirigions vers l'abîme. Nous marchions en silence, pensifs, éprouvant une oppression physique et mentale. Plus l'hiver avançait, plus les tempêtes et le gel étaient violents. Au travail, on s'éloignait toujours plus de la colonne. Nous marchions et nous nous regardions mutuellement. C'était tantôt le nez qui jaunissait, tantôt les joues. Alors nous couvrions immédiatement cette partie avec une moufle. Lorsque les températures avoisinaient les moins 42 degrés et que les vents allaient jusqu'à 18 mètres par seconde, dans ces cas-là uniquement, on invalidait la journée et nous restions dans les baraques. Il y avait un planton dans notre camp, un vieux zec qui s'appelait Apollonitch. Il se levait tôt le matin, trempait une de ses vieilles chaussures, l'attachait à une ficelle et la jetait dans le froid. Une demi-heure plus tard, il ouvrait la porte, récupérait la botte gelée qui lui permettait de mesurer précisément la température. Le thermomètre officiel était toujours suspendu à l'extérieur de la zone. Et personne, hormis les autorités, ne savait quelle température il faisait, vraiment. En cas de forte gelée et de tempête, le vent froid balayait nos habits, causant des douleurs articulaires aux mains. C'était comme si le cartilage des articulations gelait. J'ai toujours été frappée par la force d'adaptation du corps humain. Tu rentres complètement gelé, au point d'en avoir des convulsions. Tu penses que le lendemain, tu n'arriveras pas à te lever, que tu seras malade. Mais le matin, tu te lèves comme si rien ne s'était passé.
On y restait combien de temps dans ce camp, Samuel Verdant ?
Probablement, les prisonniers qui ont été employés à la construction de la voie sont restés là un an et demi. C'est-à-dire le temps de construire la quinzaine de kilomètres de voie ferrée qui passe à proximité. C'est en même temps très long pour un prisonnier, mais c'est relativement court par rapport aux peines que les prisonniers purgeaient, et puis aussi par rapport à l'histoire d'autres camps du goulag qui ont duré toute la période soviétique. Une fois que le tronçon de voie était construit, on déplaçait la main d'œuvre pour aller construire un tronçon plus loin. On sait qu'en 1952, le camp 93 sur lequel nous avons travaillé était non pas abandonné, mais en tout cas mis en veille, plus occupé.
Ce camp, exploré le long de la voie 501, c'est un petit camp. Rien à voir avec la Kolyma, un site gigantesque du goulag, implanté pour l'exploitation minière où des milliers de détenus sont restés des décennies. Les traces du passage des détenus le long de cette voie ferrée polaire, qui n'a jamais vu le jour finalement, sont plus ténues. Et pourtant, aujourd'hui encore, on vient leur rendre hommage.
L'été, il y a des touristes qui montent jusque dans ces régions-là en voiture pour voir la nature, pour pêcher, mais aussi pour visiter ces lieux de ce passé, ces vestiges du goulag. Il y a des gens de la ville d'à côté, de Nadim, il y a des curieux, il y a aussi des classes qui sont emmenées pour visiter cela. Et pas mal de gens sur place laissent des sortes d'offrandes, des traces de leur passage évidemment, mais aussi des objets qui sont comme des dons a posteriori aux prisonniers. On donne des choses dont les prisonniers ont manqué, en particulier le tabac, la cigarette. C'était très important pour les prisonniers et on trouve des cigarettes posées à différents endroits, notamment dans l'isolateur disciplinaire. Les gens font une comme ça, une offrande. Il y a des pièces de monnaie, il y a des verres ou des petites bouteilles de vodka. Alors on vient aussi trinquer au fond avec le souvenir des victimes. Selon certaines croyances russes, on peut aussi se connecter avec leur âme. Et c'est des pratiques qui rejoignent ce qui se fait dans les cimetières. Certains jours, fête des morts, les gens vont dans les cimetières et offrent un verre de vodka, une tranche de pain aux défunts.
Un autre ancien détenu a laissé son témoignage sur ce camp 93 de la voie 501. C'est Ivan Dmitrievitch Marmanov. Arrêté en 1949, à l'âge de 19 ans, il est envoyé à Nadim pour travailler sur ce chantier 501 en tant que géologue jusqu'en 1953. Il a publié son témoignage seulement 50 ans plus tard. L'ingénieur et constructeur de pont Vadim Osipovitch Boutousov eut l'idée de planter une allée de conifères dans le camp. Il expliqua aux détenus l'intérêt de son projet avec optimisme.
Dans quelques années, nous serons tous en liberté et les trains de voyageurs Moscou-Igarka circuleront sur notre voie de chemin de fer. Des flux entiers de touristes brûleront d'envie d'atteindre l'Ob, l'Yenisei, de se rendre dans les parcs nationaux subpolaires, de parler avec les minorités autochtones du Nord, de se prendre en photo sur le cercle polaire, aux différents endroits où la voie ferroviaire que nous avons construite le coupera.
La direction du camp n'a pas tout de suite autorisé la plantation d'une allée d'arbres, invoquant les règles de sécurité et de surveillance. Des arbres dans la zone empêcheraient, en particulier la nuit, les gardes des miradors de différencier une personne d'un arbre.
Les récits de Marmanov, ils sont retravaillés. C'est une des choses qu'il a écrites à la fin des années 90, donc avec passablement de distance. Et on voit qu'il recompose ce qu'il a vécu. Avec une certaine dose de nostalgie, on est après l'effondrement de l'Union soviétique avec tous les problèmes que ça a amené. On a l'impression qu'il a tendance un peu à idéaliser ce qu'il a vécu d'une certaine manière. Il ne tait pas du tout les côtés difficiles, mais il essaye de leur trouver une justification. Il y a quand même le fait que construire une voie ferrée dans ces endroits-là, sous ce climat, dans des conditions géographiques extrêmement complexes, c'était une œuvre héroïque. Et donc, on peut glorifier ce type de travail, même s'il était accompli par des prisonniers.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, pour ce site, Samuel Verdant ?
Du côté des projets rêvés, évidemment, il y aurait... le retour sur le site de nouvelles campagnes d'études, pas seulement sur ce camp en particulier, mais sur tous ceux qui s'échelonnent le long de la voie ferrée. Pas nécessairement pour les documenter comme on l'a fait dans le camp en 2019, mais peut-être pour y relever ces petits détails qui ont vraiment du sens, dont je parlais avant, donc notamment les inscriptions. Et moi, si je le pouvais, j'irais... visiter tous ces camps pour essayer de retrouver le plus de traces laissées par les détenus, pour créer comme ça une sorte de collecte, de florilège, de littérature primaire du goulag. Mais actuellement, il y a peu de chances que ce type de projet se réalise, parce que maintenant c'est assez difficile d'organiser cela en Russie et que il n'est plus très bien vu de s'intéresser à ces aspects sombres du passé soviétique actuellement. En même temps, on est très loin de Moscou, donc les gens font un peu ce qu'ils veulent, et justement, dans le camp 93, on a ces bénévoles qui font des travaux de restauration, qui organisent des visites, donc le camp continue à vivre, et c'est probablement... ça qu'on va avoir dans les prochaines années. Il y a des parties du camp qui vont continuer à se dégrader, d'autres qui vont être restaurées. Donc ça va vraiment faire un lieu hybride entre un site archéologique en courte formation, un musée à ciel ouvert, et puis toujours un lieu de mémoire, donc un endroit où des gens, je l'espère en tout cas, vont continuer à venir pour se connecter à ce passé, pour commémorer. Un des grands risques pour ce site et pour toute la voie ferrée ancienne, c'est qu'il y a un projet de construction d'une nouvelle voie ferrée actuellement qui passerait exactement sur le même tracé et qui pourrait faire disparaître la plupart des vestiges. Donc ça serait un effacement comme ça de ce passé assez radical. En même temps, la réalisation du rêve des planificateurs de cette voie ferrée polaire des années 50, parce que enfin elle existerait, mais en même temps la disparition du premier projet.
Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Valérie Dantan à la préparation et Jean-Philippe Zvalen à la réalisation. C'est aussi tous les vendredis dans les pages de la Liberté et en images sur RTS2 tous les dimanches soirs.
Тот Ванинский порт. И виды парохода угрюмы, как шли мы по трапу на борт. В холодные мрачные трюмы от качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром...
Retrouvez тous les épisodes de cette série et bien d'autres sur l'application Play RTS. Tout de suite, les infos et juste après, dis pourquoi avec Lucas Torrent.
Il est 14h sur RTS Première.